Chapitre 5. Des lois de la variation. Effet du changement des conditions. Usage et non-usage des parties combinées avec la sélection naturelle. Organes du vol et de la vue. Acclimatation. Variation corrélative. Compensation et économie de croissance. Fausse corrélation. Les organismes inférieurs multiples et rudimentaires sont variables. Les parties développées de façon extraordinaire sont très variables. Les caractères spécifiques sont plus variables que les caractères génériques. Les caractères sexuels secondaires sont très variables. Les espèces du même genre varient d'une manière analogue. Retour à des caractères depuis longtemps perdus. Résumé. J'ai jusqu'à présent parlé des variations, si communes et si diverses chez les êtres organisés, réduits à l'état de domesticité, et à un degré moindre chez ceux qui se trouvent à l'état sauvage, comme si elles étaient dues au hasard. C'est là, sans contredit, une expression bien incorrecte. Peut-être, cependant, a-t-elle un avantage en ce qu'elle sert à démontrer notre ignorance absolue sur les causes de chaque variation particulière. Quelques savants croient qu'une des fonctions du système reproducteur consiste autant à produire des différences individuelles ou des petites déviations de structure qu'à rendre les descendants semblables à leurs parents. Mais le fait que les variations et les monstruosités se présentent beaucoup plus souvent à l'état domestique qu'à l'état de nature, le fait que les espèces ayant un habitat très étendu sont plus variables que celles ayant un habitat restreint, nous autorise à conclure que la variabilité doit avoir ordinairement quelque rapport avec les conditions d'existence auxquelles chaque espèce a été soumise pendant plusieurs générations successives. J'ai essayé de démontrer dans le premier chapitre que les changements des conditions agissent de deux façons, directement sur l'organisation entière ou sur certaines parties seulement de l'organisme, indirectement au moyen du système reproducteur. En tout cas, il y a deux facteurs. La nature de l'organisme, qui est de beaucoup le plus important des deux, et la nature des conditions ambiantes. L'action directe du changement des conditions conduit à des résultats définis ou indéfinis. Dans ce dernier cas, l'organisme semble devenir plastique et nous nous trouvons en présence d'une grande variabilité flottante. Dans le premier cas, la nature de l'organisme est telle qu'elle cède facilement quand on la soumet à de certaines conditions. Et tous, ou presque tous les individus, se modifient de la même manière. Il est très difficile de déterminer jusqu'à quel point le changement des conditions, tel par exemple que le changement de climat, d'alimentation, etc., agit d'une façon définie. Il y a raison de croire que, dans le cours du temps, les effets de ces changements sont plus considérables qu'on ne peut l'établir par la preuve directe. Toutefois, nous pouvons conclure, sans craindre de nous tromper, qu'on ne peut attribuer uniquement à une cause agissante semblable les adaptations de structures si nombreuses et si complexes que nous observons dans la nature entre les différents êtres organisés. Dans les cas suivants, les conditions ambiantes semblent avoir produit un léger effet défini. E. Forbes affirme que les coquillages, à l'extrémité méridionale de leur habitat, revêtent, quand ils vivent dans des eaux peu profondes, des couleurs beaucoup plus brillantes que les coquillages de la même espèce qui vivent plus au nord et à une plus grande profondeur. Mais cette loi ne s'applique certainement pas toujours. M. Gould a observé que les oiseaux de la même espèce sont plus brillamment colorés quand ils vivent dans un pays où le ciel est toujours pur que lorsqu'ils habitent près des côtes ou sur des îles. Wollaston assure que la résidence près des bords de la mer affecte la couleur des insectes. Moquin-Tandon donne une liste de plantes dont les feuilles deviennent charnues lorsqu'elles croissent près des bords de la mer, bien que cela ne se produise pas dans toute autre situation. Ces organismes légèrement variables sont intéressants, en ce sens qu'ils présentent des caractères analogues à ceux que possèdent les espèces exposées à des conditions semblables. Quand une variation constitue un avantage, si petit qu'il soit, pour un être quelconque, on ne saurait dire quelle part il convient d'attribuer à l'action accumulatrice de la sélection naturelle et quelle part il convient d'attribuer à l'action définie des conditions d'existence. Ainsi, tous les fourreurs savent fort bien que les animaux de la même espèce ont une fourrure d'autant plus épaisse et d'autant plus belle qu'ils habitent un pays plus septentrional. Mais qui peut dire si cette différence provient de ce que les individus les plus chaudement vêtus ont été favorisés et ont persisté pendant de nombreuses générations, ou si elle est une conséquence de la rigueur du climat? Il paraît, en effet, que le climat exerce une certaine action directe sur la fourrure de nos quadrupèdes domestiques. On pourrait citer, chez une même espèce, des exemples de variations analogues, bien que cette espèce soit exposée à des conditions ambiantes aussi différentes que possible. D'autre part, on pourrait citer des variations différentes produites dans des conditions ambiantes qui paraissent identiques. Enfin, tous les naturalistes pourraient citer des cas innombrables d'espèces restant absolument les mêmes, c'est-à-dire qui ne varient en aucune façon, bien qu'elles vivent sous les climats les plus divers. Ces considérations me font pencher à attribuer moins de poids à l'action directe des conditions ambiantes qu'à une tendance à la variabilité due à des causes que nous ignorons absolument. On peut dire que dans un certain sens, non seulement les conditions d'existence déterminent directement ou indirectement les variations, mais qu'elles influencent aussi la sélection naturelle. Les conditions déterminent en effet la persistance de telle ou telle variété. Mais quand l'homme se charge de la sélection, il est facile de comprendre que les deux éléments du changement sont distincts. La variabilité se produit d'une façon quelconque, mais c'est la volonté de l'homme qui accumule les variations dans certaines directions. Or, cette intervention répond à la persistance du plus apte à l'état de nature. Effet produit par la sélection naturelle sur l'accroissement de l'usage et du non-usage des parties. L'effet cité dans le premier chapitre ne permet, je crois, aucun doute sur ce point, que l'usage chez nos animaux domestiques renforce et développe certaines parties, tandis que le non-usage les diminue, et en outre que ces modifications sont héréditaires. À l'état de nature, nous n'avons aucun terme de comparaison qui nous permette de juger des effets d'un usage ou d'un non-usage constant, car nous ne connaissons pas les formes types. Mais beaucoup d'animaux possèdent des organes dont on ne peut expliquer la présence que par les effets du non-usage. Y a-t-il, comme le professeur Owen l'a fait remarquer, une anomalie plus grande dans la nature qu'un oiseau qui ne peut pas voler? Cependant, il y en a plusieurs dans cet état. Le canard à ailes courtes de l'Amérique méridionale doit se contenter de battre avec ses ailes la surface de l'eau, et elles sont chez lui à peu près dans la même condition que celle du canard domestique d'Aylesbury. En outre, s'il faut en croire M. Cunningham, ces canards peuvent voler quand ils sont tout jeunes, tandis qu'ils en sont incapables à l'âge adulte. Les grands oiseaux, qui se nourrissent sur le sol, ne s'envolent guère que pour échapper au danger. Il est donc probable que le défaut d'ailes, chez plusieurs oiseaux qui habitent actuellement ou qui dernièrement encore habitaient des îles océaniques, où ne se trouve aucune bête de proie, provient du non-usage des ailes. L'autruche, il est vrai, habite les continents et est exposée à bien des dangers auxquels elle ne peut pas se soustraire par le vol. Mais elle peut, aussi bien qu'un grand nombre de quadrupèdes, se défendre contre ses ennemis à coups de pied. Nous sommes autorisés à croire que l'ancêtre du genre autruche avait des habitudes ressemblant à celles de l'outarde, et que, à mesure que la grosseur et le poids du corps de cet oiseau augmentèrent pendant de longues générations successives, l'autruche se servit toujours davantage de ses jambes et moins de ses ailes, jusqu'à ce qu'enfin il lui devint impossible de voler. Kirby a fait remarquer, et j'ai observé le même fait, que les tarses ou parties postérieures des pattes de beaucoup de scarabées mâles qui se nourrissent d'excréments sont souvent brisées. Il a examiné 17 spécimens dans sa propre collection et aucun d'eux n'avait plus la moindre trace des tarses. Chez Lonites apelles, les tarses disparaissent si souvent qu'on a décrit cet insecte comme n'en ayant pas. Chez quelques autres genres, les tarses existent, mais à l'état rudimentaire. Chez l'Athéucus, ou scarabée sacré des Égyptiens, ils font absolument défaut. On ne saurait encore affirmer positivement que les mutilations accidentelles soient héréditaires. Toutefois, les cas remarquables observés par M. Braun-Séquard relatifs à la transmission par hérédité des effets de certaines opérations chez le cochon d'Inde doivent nous empêcher de nier absolument cette tendance. En conséquence, il est peut-être plus sage de considérer l'absence totale des tarses antérieurs chez l'Athéucus et leur état rudimentaire chez quelques autres genres, non pas comme des cas de mutilations héréditaires, mais comme les effets d'un non-usage, longtemps continué. En effet, comme beaucoup de scarabées qui se nourrissent d'excréments ont perdu leur tarse, cette disparition doit arriver à un âge peu avancé de leur existence, et par conséquent, les tarses ne doivent pas avoir beaucoup d'importance pour ces insectes, ou ils ne doivent pas s'en servir beaucoup. Dans quelques cas, on pourrait facilement attribuer au défaut d'usage certaines modifications de structure qui sont surtout dues à la sélection naturelle. M. Wollaston a découvert le fait remarquable que, sur 550 espèces de scarabées, on en connaît un plus grand nombre aujourd'hui. Qui habitent l'île de Madère, 200 sont si pauvrement pourvus d'ailes qu'elles ne peuvent voler. Il a découvert en outre que sur 29 genres indigènes, toutes les espèces appartenant à 23 de ces genres se trouvent dans cet état. Plusieurs faits, à savoir que les scarabées, dans beaucoup de parties du monde, sont portés fréquemment en mer par le vent et qu'ils y périssent. Que les scarabées de Madère, ainsi que l'a observé M. Wollaston, restent cachés jusqu'à ce que le vent tombe et que le soleil brille. Que la proportion des scarabées sans ailes est beaucoup plus considérable dans les déserts exposés aux variations atmosphériques qu'à Madère même. Que, et c'est là le fait le plus extraordinaire sur lequel M. Wollaston a insisté avec beaucoup de raison, certains groupes considérables de scarabées, qui ont absolument besoin d'ailes, autre part si nombreux, font ici presque entièrement défaut. Ces différentes considérations, dis-je, me portent à croire que le défaut d'ailes chez tant de scarabées à Madère est principalement dû à l'action de la sélection naturelle, combinée probablement avec le non-usage de ces organes. Pendant plusieurs générations successives, tous les scarabées qui se livraient le moins au vol, soit parce que leurs ailes étaient un peu moins développées, soit en raison de leurs habitudes indolentes, doivent avoir eu la meilleure chance de persister parce qu'ils n'étaient pas exposés à être emportés à la mer. D'autre part, les individus qui s'élevaient facilement dans l'air étaient plus exposés à être emportés au large et par conséquent à être détruits. Les insectes de Madère, qui ne se nourrissent pas sur le sol, mais qui, comme certains coléoptères et certains lépidoptères, se nourrissent sur les fleurs et qui doivent par conséquent se servir de leurs ailes pour trouver leurs aliments, ont, comme l'a observé M. Wollaston, les ailes très développées au lieu d'être diminuées. Ce fait est parfaitement compatible avec l'action de la sélection naturelle. En effet, à l'arrivée d'un nouvel insecte dans l'île, la tendance au développement ou à la réduction de ses ailes dépend de ce fait qu'un plus grand nombre d'individus échappent à la mort, en luttant contre le vent ou en discontinuant de voler. C'est en somme ce qui se passe pour des matelots qui ont fait naufrage auprès d'une côte. Il est important pour les bons nageurs de pouvoir nager aussi longtemps que possible. Mais il vaut mieux pour les mauvais nageurs ne pas savoir nager du tout et s'attacher aux bâtiments naufragés. Les taupes et quelques autres rongeurs fouisseurs ont les yeux rudimentaires, quelquefois même complètement recouverts d'une pellicule et de poils. Cet état des yeux est probablement dû à une diminution graduelle provenant du non-usage, augmentée sans doute par la sélection naturelle. Dans l'Amérique méridionale, un rongeur appelé Tucutuco ou Cnenomys a des habitudes encore plus souterraines que la taupe. On m'a assuré que ces animaux sont fréquemment aveugles. J'en ai conservé un vivant, et celui-là certainement était aveugle. Je l'ai disséqué après sa mort, et j'ai trouvé alors que son aveuglement provenait d'une inflammation de la membrane clignotante. L'inflammation des yeux est nécessairement nuisible à un animal. Or, comme les yeux ne sont pas nécessaires aux animaux qui ont des habitudes souterraines, une diminution de cet organe, suivie de l'adhérence des paupières et de leur protection par des poils, pourrait dans ce cas devenir avantageuse. S'il en est ainsi, la sélection naturelle vient achever l'œuvre commencée par le non-usage de l'organe. On sait que plusieurs animaux appartenant aux classes les plus diverses, qui habitent les grottes souterraines de la Carniole et celles du Kentucky, sont aveugles. Chez quelques crabes, le pédoncule portant l'œil est conservé, bien que l'appareil de la vision ait disparu, c'est-à-dire que le support du télescope existe, mais que le télescope lui-même et ses verres font défaut. Comme il est difficile de supposer que l'œil, bien qu'inutile, puisse être nuisible à des animaux vivant dans l'obscurité, on peut attribuer l'absence de cet organe au non-usage. Chez l'un de ces animaux aveugles, le rat de caverne, Neotoma, dont deux spécimens ont été capturés par le professeur Silliman, à environ un demi-mille de l'ouverture de la grotte, et par conséquent pas dans les parties les plus profondes, les yeux étaient grands et brillants. Le professeur Silliman m'apprend que ces animaux ont fini par acquérir une vague aptitude à percevoir les objets, après avoir été soumis pendant un mois à une lumière graduée. Il est difficile d'imaginer des conditions ambiantes plus semblables que celles de vastes cavernes, creusées dans de profondes couches calcaires, dans des pays ayant à peu près le même climat. Aussi, dans l'hypothèse que les animaux aveugles ont été créés séparément pour les cavernes d'Europe et d'Amérique, on doit s'attendre à trouver une grande analogie dans leur organisation et leurs affinités. Or, la comparaison des deux faunes nous prouve qu'il n'en est pas ainsi. Tchotté fait remarquer relativement aux insectes seuls. Nous ne pouvons donc considérer l'ensemble du phénomène que comme un fait purement local, et l'analogie qui existe entre quelques faunes qui habitent la caverne du mammouth, Kentucky, et celles qui habitent les cavernes de la Carniole, que comme l'expression de l'analogie qui s'observe généralement entre la faune de l'Europe et celle de l'Amérique du Nord. Dans l'hypothèse où je me place, nous devons supposer que les animaux américains, doués dans la plupart des cas de la faculté ordinaire de la vue, ont quitté le monde extérieur pour s'enfoncer lentement et par générations successives dans les profondeurs des cavernes du Kentucky, ou, comme l'ont fait d'autres animaux, dans les cavernes de l'Europe. Nous possédons quelques preuves de la gradation de cette habitude. Tchotté ajoute, en effet, « Nous pouvons donc regarder les faunes souterraines comme de petites ramifications qui, détachées des faunes géographiques limitées du voisinage, ont pénétré sous terre, et qui, à mesure qu'elles se plongeaient davantage dans l'obscurité, se sont accommodés à leurs nouvelles conditions d'existence. Des animaux peu différents des formes ordinaires ménagent la transition. Puis viennent ceux conformés pour vivre dans un demi-jour. Enfin, ceux destinés à l'obscurité complète et dont la structure est toute particulière. » Je dois ajouter que ces remarques de Tchotté s'appliquent non à une même espèce, mais à plusieurs espèces distinctes. Quand, après d'innombrables générations, l'animal atteint les plus grandes profondeurs, le non-usage de l'organe a plus ou moins complètement atrophié l'œil, et la sélection naturelle lui a, souvent aussi, donné une sorte de compensation pour sa cécité en déterminant un allongement des antennes. Malgré ces modifications, nous devons encore trouver certaines affinités entre les habitants des cavernes de l'Amérique et les autres habitants de ce continent, aussi bien qu'entre les habitants des cavernes de l'Europe et ceux du continent européen. Or, le professeur Dana m'apprend qu'il en est ainsi pour quelques-uns des animaux qui habitent les grottes souterraines de l'Amérique. Quelques-uns des insectes qui habitent les cavernes de l'Europe sont très voisins de ceux qui habitent la région adjacente. Dans l'hypothèse ordinaire d'une création indépendante, il serait difficile d'expliquer de façon rationnelle les affinités qui existent entre les animaux aveugles des grottes et les autres habitants du continent. Nous devons d'ailleurs nous attendre à trouver, chez les habitants des grottes souterraines de l'Ancien et du Nouveau Monde, l'analogie bien connue que nous remarquons dans la plupart de leurs autres productions. Comme on trouve en abondance sur des rochers ombragés, loin des grottes, une espèce aveugle de batichia, la perte de la vue chez l'espèce de ce genre qui habite les grottes souterraines n'a probablement aucun rapport avec l'obscurité de son habitat. Il semble tout naturel, en effet, qu'un insecte déjà privé de la vue s'adapte facilement à vivre dans les grottes obscures. Un autre genre aveugle, Anophthalmus, offre, comme l'a fait remarquer M. Murray, cette particularité remarquable qu'on ne le trouve que dans les cavernes. En outre, ceux qui habitent les différentes cavernes de l'Europe et de l'Amérique appartiennent à des espèces distinctes. Mais il est possible que les ancêtres de ces différentes espèces, alors qu'ils étaient doués de la vue, aient pu habiter les deux continents, puis s'éteindre, à l'exception de ceux qui habitent les endroits retirés qu'ils occupent actuellement. Loin d'être surpris que quelques-uns des habitants des cavernes, comme l'amblyopsis, poisson aveugle signalé par Agassiz, et le protée, également aveugle, présentent de grandes anomalies dans leur rapport avec les reptiles européens, je suis plutôt étonné que nous ne retrouvions pas, dans les cavernes, un plus grand nombre de représentants d'animaux éteints, en raison du peu de concurrence à laquelle les habitants de ces sombres demeures ont été exposés. Acclimatation. Les habitudes sont héréditaires chez les plantes. Ainsi, par exemple, l'époque de la floraison, les heures consacrées au sommeil, la quantité de pluie nécessaire pour assurer la germination des graines, etc. Et ceci me conduit à dire quelques mots sur l'acclimatation. Comme rien n'est plus ordinaire que de trouver des espèces d'un même genre dans des pays chauds et dans des pays froids, il faut que l'acclimatation ait, dans la longue série des générations, joué un rôle considérable, s'il est vrai que toutes les espèces du même genre descendent d'une même souche. Chaque espèce, cela est évident, est adaptée au climat du pays qu'elle habite. Les espèces habitant une région arctique ou même une région tempérée ne peuvent supporter le climat des tropiques, et vice-versa. En outre, beaucoup de plantes grasses ne peuvent supporter les climats humides. Mais on a souvent exagéré le degré d'adaptation des espèces au climat sous lesquels elles vivent. C'est ce que nous pouvons conclure du fait que, la plupart du temps, il nous est impossible de prédire si une plante importée pourra supporter notre climat, et, de cet autre fait, qu'un grand nombre de plantes et d'animaux provenant des pays les plus divers vivent chez nous en excellente santé. Nous avons raison de croire que les espèces, à l'état de nature, sont restreintes à un habitat peu étendu, bien plus par suite de la lutte qu'elles ont à soutenir avec d'autres êtres organisés que par suite de leur adaptation à un climat particulier. Que cette adaptation, dans la plupart des cas, soit ou non très rigoureuse, nous n'en avons pas moins la preuve que quelques plantes peuvent, dans une certaine mesure, s'habituer naturellement à des températures différentes, c'est-à-dire s'acclimater. Le docteur Hooker a recueilli des graines de pins et de rhododendrons sur des individus de la même espèce, croissant à des hauteurs différentes sur l'Himalaya. Or, ces graines, semées et cultivées en Angleterre, possèdent des aptitudes constitutionnelles différentes relativement à la résistance au froid. M. Thwaites m'apprend qu'il a observé des faits semblables à Ceylan. M. H. C. Watson a fait des observations analogues sur des espèces européennes de plantes rapportées des Açores en Angleterre. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. À l'égard des animaux, on peut citer plusieurs faits authentiques prouvant que, depuis les temps historiques, certaines espèces ont émigré en grand nombre de latitudes chaudes vers de plus froides et réciproquement. Toutefois, nous ne pouvons affirmer d'une façon positive que ces animaux étaient strictement adaptés au climat de leur pays natal, bien que, dans la plupart des cas, nous admettions que cela soit. Nous ne savons pas non plus s'ils se sont subséquemment si bien acclimatés dans leur nouvelle patrie qu'ils y sont mieux adaptés qu'ils ne l'étaient dans le principe. On pourrait sans doute acclimater facilement dans des pays tout différents beaucoup d'animaux vivant aujourd'hui à l'état sauvage. Ce qui semble le prouver, c'est que nos animaux domestiques ont été originairement choisis par les sauvages, parce qu'ils leur étaient utiles et parce qu'ils se reproduisaient facilement en domesticité, et non pas parce qu'on s'est aperçu plus tard qu'on pouvait les transporter dans les pays les plus différents. Cette faculté extraordinaire de nos animaux domestiques à supporter les climats les plus divers et ce qui est une preuve encore plus convaincante, à rester parfaitement féconds partout où on les transporte, est sans doute un argument en faveur de la proposition que nous venons d'émettre. Il ne faudrait cependant pas pousser cet argument trop loin. En effet, nos animaux domestiques descendent probablement de plusieurs souches sauvages. Le sang, par exemple, d'un loup des régions tropicales et d'un loup des régions arctiques peut se trouver mélangé chez nos races de chiens domestiques. On ne peut considérer le rat et la souris comme des animaux domestiques. Ils n'en ont pas moins été transportés par l'homme dans beaucoup de parties du monde. Ils ont aujourd'hui un habitat beaucoup plus considérable que celui des autres rongeurs. Ils supportent, en effet, le climat froid des îles Féroé dans l'hémisphère boréal et des îles Falkland dans l'hémisphère austral, et le climat brûlant de bien des îles de la zone torride. On peut donc considérer l'adaptation à un climat spécial comme une qualité qui peut aisément se greffer sur cette large flexibilité de constitution qui paraît inhérente à la plupart des animaux. Dans cette hypothèse, la capacité qu'offre l'homme lui-même, ainsi que ses animaux domestiques, de pouvoir supporter les climats les plus différents, le fait que l'éléphant et le rhinocéros ont autrefois vécu sous un climat glacial, tandis que les espèces existant actuellement habitent toutes les régions de la zone torride, ne sauraient être considérées comme des anomalies, mais bien comme des exemples d'une flexibilité ordinaire de constitution qui se manifeste dans certaines circonstances particulières. Quelle est la part qu'il faut attribuer aux habitudes seules ? Quelle est celle qu'il faut attribuer à la sélection naturelle de variétés ayant des constitutions innées différentes ? Quelle est celle, enfin, qu'il faut attribuer à ces deux causes combinées dans l'acclimatation d'une espèce sous un climat spécial ? C'est là une question très obscure. L'habitude ou la coutume a sans doute quelque influence, s'il faut en croire l'analogie. Les ouvrages sur l'agriculture et même les anciennes encyclopédies chinoises donnent à chaque instant le conseil de transporter les animaux d'une région dans une autre. En outre, comme il n'est pas probable que l'homme soit parvenu à choisir tant de races et de sous-races dont la constitution convient si parfaitement au pays qu'elles habitent, je crois qu'il faut attribuer à l'habitude les résultats obtenus. D'un autre côté, la sélection naturelle doit tendre, inévitablement, à conserver les individus doués d'une constitution bien adaptée au pays qu'ils habitent. On constate, dans les traités sur plusieurs espèces de plantes cultivées, que certaines variétés supportent mieux tel climat que tel autre. On en trouve la preuve dans les ouvrages sur la pomologie publiés aux États-Unis. On y recommande en effet d'employer certaines variétés dans les États du Nord et certaines autres dans les États du Sud. Or, comme la plupart de ces variétés ont une origine récente, on ne peut attribuer à l'habitude leurs différences constitutionnelles. On a même cité, pour prouver que, dans certains cas, l'acclimatation est impossible, l'artichaut de Jérusalem qui ne se propage jamais en Angleterre par semis et dont, par conséquent, on n'a pas pu obtenir de nouvelles variétés. On fait remarquer que cette plante est restée aussi délicate qu'elle l'était. On a souvent cité aussi, et avec beaucoup plus de raison, le haricot comme exemple. Mais on ne peut pas dire, dans ce cas, que l'expérience ait réellement été faite. Il faudrait pour cela que, pendant une vingtaine de générations, quelqu'un prît la peine de semer des haricots d'assez bonne heure pour qu'une grande partie fût détruite par le froid, puis qu'on recueillit la graine de quelques survivants en ayant soin d'empêcher les croisements accidentels. Puis, enfin, qu'on recommença chaque année cet essai en s'entourant des mêmes précautions. Il ne faudrait pas supposer, d'ailleurs, qu'il n'apparaît jamais de différence dans la constitution des haricots, car plusieurs variétés sont beaucoup plus rustiques que d'autres. C'est là un fait dont j'ai pu observer moi-même des exemples frappants. En résumé, nous pouvons conclure que l'habitude, ou bien que l'usage et le non-usage des parties ont, dans quelques cas, joué un rôle considérable dans les modifications de la constitution et de l'organisme. Nous pouvons conclure aussi que ces causes se sont souvent combinées avec la sélection naturelle de variations innées et que les résultats sont souvent aussi dominés par cette dernière cause.